La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue, nous sommes toujours en direct de la 6e édition de la REF à l'Hippodrome de Paris-Longchamp. Nous sommes ravis de vous faire vivre cet événement pendant 2 jours en recevant ici même autour de cette table de nombreux invités. Alors à ma gauche, vous le connaissez, il y a Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Toujours au taquet.
Toujours au taquet, toujours présent et toujours directeur des antennes de Radio Immo et Radio Territoria.
Jusqu'à ce soir, c'est sûr. Après, je sais.
Média partenaire donc de cette REF comme chaque année. Et là, nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Moreno. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous et je suis ravie d'être là.
Eh bien, c'est parfait. Vous êtes présidente du conseil d'administration de Ring Capital. Alors, c'est un fonds de capital d'investissement spécialisé dans le financement des entreprises technologiques et numériques.
Vous êtes à impact, parce que spécialisé dans les investissements à impact social et environnemental. Parce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui s'intéressent... c'est important d'être précis.
Vous avez
précis.
Absolument raison.
Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui s'intéressent aux startups, mais il y a beaucoup de fonds d'investissement qui font semblant de s'intéresser à l'impact social et environnemental. Nous le faisons.
Vraiment, c'est bien. Vous avez raison de faire cette mise au point. Donc, présidente du conseil d'administration de Ring Capital, également présidente de la fondation Femmes Numériques. Et puis, pendant 2 ans, entre 2020 et 2022, vous avez occupé le poste de ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l'égalité des chances. Encore une fois, merci à vous d'être présente. Alors, vous êtes présente d'ailleurs parce que vous allez participer normalement à un débat qui aura lieu demain, le pouvoir de la création d'entreprise, voilà pour le thème. En dehors de ça, de votre participation à ce débat, pourquoi c'est important pour vous, Elisabeth Moreno, d'être présente concrètement sur ce type d'événement ?
Eh bien, c'est important parce que, en vérité, beaucoup de gens savent que j'ai été l'une des ministres de Jean Castex. J'étais en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, des questions de diversité et d'égalité des chances. Mais peu de gens savent que j'ai passé 30 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise. Et donc, moi, je venais aux universités d'été du MEDEF, qui ne s'appelait pas la REF à l'époque, bien avant d'être ministre. Et je pense que c'est important d'être ici parce que, pour moi, l'entreprise, c'est le cœur battant de la cité. Quand vous créez, quand vous innovez, quand vous inventez, quand vous cherchez des solutions concrètes, pratiques, pour améliorer la vie des gens, pour répondre à une problématique, quelle qu'elle soit, eh bien, vous participez à la vie de la cité.
Rapprochez-vous du micro, Lise. Excusez-moi.
Comme ça ? Est-ce que
bien.
Vous m'entendez mieux ?
C'est super.
Ok, très bien. Donc, je disais, je ne sais pas, faut-il que je répète ce
non,
que
non, allez-y, d'accord. Continuez.
Donc, pour moi, c'est important d'être ici, d'abord parce qu'on y rencontre la plupart des grands chefs d'entreprise, parce qu'on y rencontre aussi beaucoup de personnalités politiques qui viennent nous donner un petit peu la tendance de d'où va notre pays. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin d'un peu de visibilité sur ce qui est en train de se passer. Et puis ensuite, parce que je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour moi, ça a été une source d'émancipation extraordinaire. Je suis tombée dans la tech quand j'avais 25 ans. Je ne l'ai plus jamais quittée parce que je vois combien cette révolution industrielle, pour le meilleur et pour le pire, transforme un peu nos vies. Et je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de l'intelligence artificielle, de parler de toutes les opportunités professionnelles qu'elle offre, mais aussi tous les dangers qu'elle constitue pour notre humanité. Et donc, venir à la fois écouter, apprendre, partager et rencontrer, je pense que c'est important.
Alors justement, Elisabeth Moreno, moi je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Ça fait un bon moment que je vous suis. Vous êtes une personnalité remarquable, Elisabeth Moreno, pour plusieurs sujets, mais notamment un qui me vient à l'esprit, vous avez eu raison de le préciser, c'est que vous veniez du monde de l'entreprise. Et c'est, si vous avez été nommé au gouvernement, c'est pas tant par rapport à votre action d'entreprise, mais par rapport à l'action de la citoyenne que vous êtes. Et c'est ça que je retiens. Et vous avez dit tout à l'heure une chose très, très juste et je voudrais développer avec cette première question. Vous avez dit, attention, je représente un fonds d'investissement à impact. Ou, comme les Anglais appellent ça, de l'impact investing, c'est-à-dire un ratio ou des ratios, des critères extra-financiers, donc qui ne sont pas alignés sur des tableurs ou sur des modèles économiques, mais des ratios qui viennent finalement composer la nouvelle valeur de l'entreprise. Est-ce que cette notion, et c'est important de le rappeler, qui maintenant commence à s'imposer dans des règles ESG, RSE, de la finance mondiale, aujourd'hui sur les échanges, qui fonctionnent aujourd'hui à la vitesse de la lumière, naturellement. Est-ce que ces fonds-là n'ont pas une responsabilité majeure, justement, dans le financement de l'entrepreneuriat, avec finalement une nouvelle forme d'expression du capital? Je m'explique. Non pas quelque chose qui serait anti-capital, mais post-capital. Une nouvelle façon d'exprimer le capital dans lequel l'humain, finalement, trouverait, serait le pivot, la charnière de tous ces dispositifs. Parce que c'est intéressant, et j'aimerais vraiment avoir votre avis en tant que femme citoyenne et aussi avec vos fonctions politiques, c'est de dire comment l'entreprise, finalement, qui n'est pas philanthrope par nature, qui a un axe profit évident, qu'on peut tous comprendre, puisse évoluer vers quelque chose qui, finalement, sert l'intérêt de l'humanité au sens propre du terme. Comment on résout cette équation?
Je trouve que c'est une excellente question et elle est au cœur de nos problématiques économiques aujourd'hui. Il faut reconnaître que le capitalisme classique et traditionnel, dans lequel vous pouvez vous satisfaire de réaliser votre EBITDA, d'avoir les profits les plus importants qui soient, de partager les dividendes entre les actionnaires, ce capitalisme-là, il ne fonctionne plus. Il fonctionne dans la mesure où, de manière concrète et pratique, les actionnaires continuent de toucher leurs dividendes, les investisseurs continuent de mettre leur argent dans le pétrole, là, dans les armes, etc. Mais on se rend compte qu'il y a une conscientisation citoyenne qui fait que on ne peut pas reprocher aux entreprises de vendre du pétrole, mais on va leur demander d'être responsables sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société. Souvenez-vous de cette affaire, de cette triste affaire Erika qui avait eu lieu il y a quelques années et qui avait saccagé les côtes bretonnes. Aujourd'hui, on n'accepterait pas, les citoyens n'accepteraient pas qu'un tel fléau naturel arrive et que l'entreprise ne soit pas responsable de trouver les solutions pour résoudre cette problématique-là. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité. Je pense qu'être un leader responsable aujourd'hui, c'est évidemment de prendre soin de son entreprise, de ses salariés, de ses clients, de ses produits, de ses services, de créer, d'innover, d'inventer, de rentabiliser, de... Tout ça, c'est une évidence. Mais on attend des vrais leaders d'entreprise aujourd'hui qu'ils ne soient pas égocentriques et qu'ils ne pensent pas qu'à eux et à leurs actionnaires. On attend également d'eux qu'ils répondent de l'impact qu'ils ont dans la société, de l'impact qu'ils ont dans l'environnement. Vous regardez les jeunes aujourd'hui, on dit qu'il y a un désamour de la jeunesse vis-à-vis de l'entreprise. C'est pas vrai. Il y a des entreprises qui arrivent parfaitement à recruter des jeunes. Pourquoi ? Parce que dans leur raison d'être, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir, elles montrent qu'elles s'intéressent à l'écosystème dans lequel elles évoluent. Vous êtes responsable d'une entreprise et vous vendez le produit X ou Y. Quand vous vendez ces produits, vous ne vous posez pas la question de savoir qui les achète ? Est-ce que ce sont des femmes, des hommes, des personnes en situation de handicap, des personnes qui habitent dans les zones rurales, des personnes qui ont 60 ans ou plus ? Vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi est-ce que vous vous posez cette question au moment de recruter les personnes qui vont travailler dans votre entreprise ? Vous voyez ? Donc, en fait, tous ces sujets-là n'ont pas été pris au sérieux pendant longtemps parce que... quelque chose d'assez bizarre qui s'est passé. L'économie, à la base, a été créée pour servir les besoins de l'humain. Et au fil du temps, ce sont les humains qui ont servi l'économie. Et vous avez aujourd'hui des entreprises qui utilisent leurs salariés comme des variables d'ajustement. Moi, j'avais été un jour, mais tellement estomaquée, une grosse multinationale qui était en difficulté, qui a annoncé le soir qu'elle allait licencier 3000 personnes. Le lendemain, son action en bourse a explosé. Et vous vous dites, mais Mais on marche vraiment sur la tête, parce que ces 3000 personnes, ce ne sont pas des références, ce ne sont pas des numéros sur un document, ce sont des vies, ce sont des familles entières qui sont détruites, parce que, si, imaginez, s'il n'y a que une seule personne dans la famille qui travaille et qu'elle perd son emploi. Donc on saccage des vies pour satisfaire davantage des actionnaires qui n'en auront de toute façon jamais assez, et on ne se pose pas la question de ce que sont nos responsabilités citoyennes en tant que leader économique. Eh bien ça, je pense que c'est en train de changer, je pense que c'est salutaire, et je pense que c'est ce qui va redonner du sens au travail.
Si je pouvais là, en public, vous applaudir, je le ferais sans hésiter. Je bois littéralement vos paroles. Elisabeth, revenez en politique. Non mais je suis sérieux. Je suis sérieux, on a besoin de vous. Revenez en politique.
J'ai été très heureuse de servir mon pays dans le gouvernement de Jean Castex. Beaucoup de mes amis chefs d'entreprise m'ont dit « Mais tu es folle de quitter l'entreprise pour aller en politique. » Au moment où ils me l'ont dit, je n'ai pas compris pourquoi, parce que j'ai trouvé que c'était l'une des missions les plus belles du monde.
Mais bien sûr.
Et puis, une fois que j'ai été dedans, j'ai compris, parce que ça n'est pas facile aujourd'hui d'être un homme ou une femme politique. Nous traversons notre pays,
Encore plus quand on est une femme, pardonnez-moi.
Et encore plus quand on est une femme.
On est quand même loin, très très loin du résultat. Vous savez, toujours les effets pendulaires. Vous évoquez l'entreprise. Ce qui est intéressant, et bien évidemment, c'est... Que vous soyez une personnalité remarquable, c'est une évidence. On n'est pas là pour vous encenser, mais parce que vous servez d'exemple. Moi, je pense à ceux qui vous écoutent, vous voyez. Je pense à ces jeunes entrepreneurs qui se posent des questions. Est-ce que vous savez quelle est la première préoccupation de ces jeunes lorsqu'ils souhaitent créer leur entreprise? Leur premier souci, c'est la solitude de l'entrepreneur. La deuxième, c'est l'accompagnement. Et en France, malheureusement, on a encore du mal à financer le développement des entreprises. Vous le savez, comme moi, Elisabeth Moreno, 17% des entreprises de la Silicon Valley sont d'origine française. 12% du Technion de Haïfa, c'est-à-dire, vous savez, Haïfa, c'est en Israël, qui est donc un des creusets de la tech dans le monde, 12% sont d'origine française. Pourquoi ne restait-elle pas en France?
C'est un excellent sujet. Vous avez dit plusieurs choses sur lesquelles je vais revenir rapidement. La solitude de l'entrepreneur, en fait, elle est beaucoup plus vaste que ce que l'on imagine. J'ai lu il n'y a pas longtemps un article dans Science et Avenir qui disait que la solitude est la maladie du siècle.
Très juste.
Vous vous rendez compte? On n'a jamais été aussi connecté et on ne s'est jamais senti aussi seul. Et ça, c'est un sujet politique. C'est un sujet politique que de se dire que les femmes et les hommes dans notre pays se sentent seuls, qu'ils se sentent isolés, qu'ils sont déprimés. Moi, je pense que les maladies mentales vont s'abattre sur nous.
C'est déjà le cas.
De manière colossale.
C'est déjà le cas.
Et que nous ne sommes pas préparés.
Où on consomme le plus d'anxiolytiques en Europe.
Après les États-Unis.
Oui, les États-Unis, il y a 300 millions d'habitants. Donc la proportion
n'est
pas la même. Les États-Unis sont dépendants des opioïdes et des anxiolytiques. La France, c'est une catastrophe.
Ça, c'est un premier.
Vous avez raison de le noter.
Et ça touche énormément de jeunes. Et ça, pour moi, vous savez, je pense que la bonne santé d'un pays s'analyse aussi à la manière dont on traite ses juniors et ses seniors.
Eh oui, les deux entrées. Voilà, les étudiants n'arrivent pas à se loger, ils renoncent à leurs études, et les retraités clashés de leurs menus se retrouvent dans des EHPAD infâmes. J'aime beaucoup la façon dont vous le résumez, parce que finalement, la cause... Quand on a créé le mouvement French PropTech, quand on a créé les mouvements d'entrepreneurs, on s'est dit qu'il y avait finalement une nouvelle forme de religion, une nouvelle forme de spiritualité, c'est « tu seras start-upper, mon fils » ou « créez votre entreprise pour vous réaliser ». Comme s'il y avait une fonction dans l'idée de créer sa boîte, donc quelque part de faire du profit, donc quelque part de posséder, donc quelque part de gagner de l'argent, il n'y a rien d'infâme dans ce que je dis, avait remplacé une nouvelle forme d'idéal.
Alors moi, l'argent, ça n'est pas sale. Alors, c'est vrai c'est que ce que nous en faisons alors, qui peut devenir sale.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeunesse qui se dit, finalement, qui trouve dans l'entrepreneuriat une nouvelle raison de vivre, en fait ?
Mais en fait, moi, je me souviens, il y a quelques années, les jeunes étaient sortis dans la rue contre une loi qu'ils trouvaient infâme. Et je crois que c'était... la loi du travail ou un sujet
c'était
sur...
C'était le contrat de Dominique de Villepin, oui, contrat première embauche.
C'est ça,
oui.
C'est ça.
Le et CPE, je me disais, pas le CPE.
Le voilà, CPE. C'était le CPE. Et je me disais, mais comment, à 15, 16, 17 ans, on peut faire grève en se disant... je me disais, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Ouais. On s'est fait la même réflexion.
Et quelques temps plus tard, il y avait une étude qui était sortie qui disait que la plupart des jeunes voulaient devenir fonctionnaires. Mais enfin... Quand vous êtes jeune, vous rêvez, vous, d'être fonctionnaire ? Et ça répondait à quoi ? En fait, ça répondait à la peur. Ça répondait à l'insécurité. Oui. Ça répondait à cette préoccupation de ne pas pouvoir gagner suffisamment votre vie pour pouvoir avoir votre appartement, pour pouvoir fonder votre foyer, pour pouvoir vivre dignement. Aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation. On a une jeunesse... qui a peur de ce que l'avenir lui réserve. Parce qu'on est malheureusement dans une telle période d'incertitude qu'ils sont préoccupés par ce qu'ils vont être en mesure de faire, de réaliser pour pouvoir s'accomplir. L'entrepreneuriat, je vous le disais tout à l'heure, pour moi, c'est quelque chose d'émancipateur. Mais ce qui se passe... Vous devez peut-être entendre un drôle de bruit autour de nous. Oui, c'est parce que...
Vous savez, c'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle...
On est en direct. Ce sont les aléas du direct.
Les aléas du direct.
Voilà, ouais. C'est un peu plus calme maintenant. Moi, je crois que si nous parvenions à équiper notre jeunesse, à lui montrer toute la beauté de l'innovation, de la création, parce que c'est de... L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est dur. Il ne faut pas se voiler la face. Vous parliez tout à l'heure de la solitude de l'entrepreneur. Elle est réelle.
Bien sûr.
On est seul à porter des responsabilités immenses, les responsabilités de nos salariés, les responsabilités
dans un système qui ne valorise
de
pas
nos partenaires. Exactement.
Et qui ne le défend pas. Enfin, je vois d'un point de vue social comme d'un point de vue juridique.
Et je pense, Sylvain, qu'on est probablement de la même génération tous les deux. À notre époque, l'entrepreneuriat était ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, quand vous regardez les start-upers, ce sont les jeunes issus des milieux les plus favorisés.
Merci de le rappeler.
Qui arrivent à entreprendre. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que si vous êtes né dans une zone rurale et si vous êtes né dans un quartier populaire et que vous n'arrivez pas à lever le moindre copec pour créer votre entreprise et que vous n'avez pas de formation... J'étais l'autre jour à Grigny, l'une des villes les plus pauvres de France, où Philippe Rio, le maire, me disait « Mais est-ce que vous vous rendez compte que j'ai 20% de jeunes dans ma ville qui quittent l'école à 15 ou 16 ans, sans diplôme, sans emploi, sans formation. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que cette jeunesse va devenir ? Et je peux vous parier ce que vous voulez, que si nous donnons les moyens à cette jeunesse d'être correctement formée, parce que je pense que le système éducatif aujourd'hui n'est plus adapté au monde dans lequel nous vivons. Lire, écrire, compter, c'est formidable. Mais ça n'est plus suffisant pour se confronter aux réalités du monde dans lequel nous vivons. Si nous apprenons à nos jeunes à créer, inventer, innover, à aller chercher cette autre forme d'intelligence qu'ils ont en eux, c'est pas parce que vous avez 20 sur 20 en maths que vous êtes le cador du siècle, mais notre système scolaire, c'est ce qu'il fait croire à nos jeunes aujourd'hui. Si vous ne rentrez pas dans le système scolaire tel qu'il existe, ou bien c'est un peu ce que disait Einstein, tout le monde a du génie, mais si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il croira toute sa vie qu'il est idiot. Eh bien, il faut que nous apprenions à notre jeunesse qu'elle a des talents extraordinaires, et il faut que nous lui donnions les moyens d'exprimer ce talent en l'éduquant, en la formant, en la mettant dans l'entreprise le plus tôt possible pour qu'elle apprenne ce que sont ses métiers dans l'entreprise. Beaucoup de jeunes sortent aujourd'hui de l'école en ne sachant pas vers quel métier ils peuvent se tourner. Vous savez que nous sommes le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Eh bien, si vous n'êtes entouré que de personnes qui sont maçons, qui sont boulangers, qui sont bouchers, et que vous n'avez pas envie de devenir maçon, boulanger ou boucher, qu'est-ce qu'il vous reste si vous n'avez personne autour de vous pour vous apprendre d'autres choses? Eh bien, il faut absolument que nous connections cette jeunesse. D'abord, que nous lui donnions confiance, que nous lui donnions espoir, que nous lui montrions qu'elle a un talent en elle et que le monde a besoin de ce talent. Et ensuite, il faut responsabiliser les chefs d'entreprise, parce que vous savez que nous sommes dans un pays très hiérarchique. Il faut que les chefs d'entreprise aient cette ouverture à cette jeunesse. Vous n'avez pas besoin de sortir des meilleures écoles de commerce de France et de Navarre pour réussir dans une entreprise. Eh bien, il faut que les entreprises ouvrent leurs bras à cette jeunesse, qu'elles leur expliquent qu'elle a besoin d'elle. Et je ne peux pas m'empêcher de glisser une petite phrase en ce qui concerne les femmes, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure. Aujourd'hui, les femmes plafonnent encore dans leur métier, et donc les jeunes filles encore plus que les jeunes hommes.
Notamment dans le numérique, d'ailleurs.
Et notamment dans le secteur du numérique. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler.
Mais de toute façon, le temps le prendra. L'avantage, c'est de gérer son propre groupe, c'est qu'on peut prendre le temps qu'on veut. Alors, c'est intéressant parce que finalement, on pourrait ne pas croire au hasard. Puisque c'est intéressant, je vais faire une petite confidence là, très rapide à tous ceux qui nous écoutent. Certains le savent aussi parmi mes auditeurs, etc. Moi, j'ai commencé par être boulanger à 14 ans et demi dans un quartier qui était le pire quartier de France, qui s'appelle les Minguettes à Lyon. D'accord. D'ailleurs, j'ai vécu dans une barre d'immeubles qui a été rasée depuis, où le destin, vous avez raison, portait un chiffre qui s'appelait le 44, qui était le bus qui nous amenait en ville. On avait l'impression de changer de pays quand on allait en ville. Et à 25 ans, je pilotais une banque d'affaires à Monaco. Alors, je vais devenir avocat après, pour des raisons X ou Y. En fait, ce que vous dites, et c'est remarquable, parce que vous mettez un point essentiel qu'on n'a pas encore résolu, qui est celui du déterminisme social. Déterminisme social et déterminisme ethnique. J'arrivais du Maroc, je ne parlais pas le français, il a fallu réapprendre dans un environnement particulier. Donc c'est même pas une peine, c'est une triple peine. Une peine parce que je venais d'un pays du Maghreb qui était très exposé, une autre peine dans laquelle on arrive dans un environnement où c'est franchement très déprimant de vivre dans une cité comme celle-ci, et une troisième peine dans laquelle je n'avais pas accès aux clés de l'éducation. Parce que le système n'est pas fait pour cette émancipation sociale. Ce que j'ai vécu là, je pense que je ne le revivrai pas aujourd'hui, et vous avez raison de le noter, et notre expérience, elle doit servir à ça. Tout à l'heure, vous avez fait allusion, on en parlait hors antenne, justement, de cette innovation qui est finalement le moteur de la prospérité des entreprises. Moi, je pense que c'est le moteur de la prospérité de la société moderne, cette créativité. On parlait d'intelligence artificielle, et j'aimerais vous citer un livre que j'ai lu, que je relis très souvent, et si vous n'avez pas lu, je vous le conseille, qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme » de Gunther Anders, qui a été écrit en 1956. Il dit la chose suivante. « Nous vivrons des époques dans lesquelles nous célébrerons la technologie, non pas parce qu'elle apportera à l'homme, mais par l'effet de l'anesthésie qu'elle va provoquer sur les hommes. » Et ce qui est très intéressant, c'est que dans son second chapitre, il dit « Nous n'aurons plus besoin de faire de la guerre, car justement cette technologie au service des puissants endormira suffisamment les populations avec des programmes idiots, déculturés de façon complète, notamment avec, alors je prends la télé-réalité ou des séries qui sont voisins de la culture zéro, dans laquelle on inonde finalement cette génération. Et ce qui est très intéressant dans votre action, Elisabeth Moreno, c'est que vous arrivez à résoudre ces deux équations, en fait. C'est-à-dire que cette équation dans laquelle, quand on investit en capital, il faut qu'on soit rentable parce qu'on ne peut pas faire sans moyens, pour être très clair. Et ce n'est pas la puissance publique qui va suppléer à ça. Mais en même temps, on peut y ajouter un ADN, finalement, pour donner du sens à tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, les clés d'un avenir plus glorieux? Malheureusement, on voit ce qui se passe aujourd'hui, Elisabeth Moreno. Je pense que ce n'est pas de nature à nous réjouir.
On va conclure là-dessus.
Oui. Mais je pense qu'on va prendre rendez-vous aussi avec Elisabeth Moreno pour un portrait plus long.
Oui, parce que là, il y a clairement plein de choses à dire, c'est clair.
Sylvain Lévy-Valendi. D'abord, je voudrais vous dire que dans les responsabilités que nous portons, nous, adultes, il y a celle d'être des modèles pour notre jeunesse. Si vous alliez dans le quartier des Minguettes ou si nous allions dans nos quartiers populaires et que vous racontiez votre histoire et que vous racontiez que vous avez été boulanger à 14 ans et que vous êtes devenu avocat et qu'aujourd'hui vous pilotez une radio, vous allez tout de suite ouvrir les horizons à des jeunes dont les horizons semblent fermés.
C'est ce que je fais.
Et vous aurez, et bravo, vraiment je vous félicite pour ça parce que il ne faut jamais sous-estimer l'importance de... En fait, on ne peut devenir que ce que l'on peut imaginer.
Mais vous voyez, là, on a un point de désaccord. On a un point de désaccord majeur. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne devrais pas devoir aller dans des groupes en disant aux jeunes, vous avez vu, j'étais boulanger, j'étais condamné, socialement condamné, hein, socialement, une condamnation. J'avais des frères et sœurs aujourd'hui qui sont toujours dans les... là-bas. Hein. Donc, j'étais condamné par anticipation. Ce que je devrais dire, par contre, qu'on devrait dire aujourd'hui, c'est que n'importe quel jeune, nonobstant les origines, nonobstant, et je vais aller plus loin, la religion, nonobstant le déterminisme géographique dans lequel on est, parce que nous, on ne trouvait pas de boulot parce qu'on habitait au Minguettes. C'est une vérité, comme à Aubervilliers, comme à Grigny, comme à Sevran, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. On devrait plutôt dire, nous devrions avoir une société qui met à égalité les mêmes chances pour l'éducation. J'ai fait partie de ce groupe qui a amené un Sciences Po à Bobigny. Vous vous rappelez ? Sciences Po à Bobigny. On a ramené les grandes écoles. Toutes ces passerelles-là, c'est une volonté politique. Parce que si demain, aux Minguettes, à la Duchère, à Lyon, donc les Minguettes, rue Olivier de Serres, dans les quartiers de la Rotonde, dans les quartiers de Sevran, qui sont absolument désespérants, d'Aulnay-sous-Bois, d'Aubervilliers, de Gagny, de Bondy, on arrivait finalement à déstructurer les modèles d'éducation pour que justement les fameux 3% des personnes ouvrières, vous savez 3%, c'est ceux qui arrivent au grade de master dans les classes sociales. Ça veut dire qu'il y a 97% des populations les plus enrichies, entre guillemets, une forme de gentrification par l'éducation, qui se reproduit par elle-même. Et ça poursuit de génération en génération. Vous voyez ce que je veux, vous comprenez le
Je vois
le
très bien. Vous savez, l'assignation à résidence, c'est quelque chose que je connais par cœur. Parce que on n'a plus le temps que je vous raconte, mais mon histoire est à peu près identique à la vôtre. Et je sais que si, il y a 30 ans, je savais qu'il était possible pour quelqu'un comme moi de s'élever et de lutter contre le déterminisme social... J'ai rencontré et je continue de rencontrer trop de parents et trop d'enfants qui n'y croient plus. Et qu'est-ce que c'est qu'un parent
qui
ne croit pas que son enfant peut avoir une meilleure vie que la sienne ? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui se dit que quoi qu'il fasse, il n'a aucune chance de faire mieux que ses parents ? C'est ça qui va mal dans notre société. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté d'accéder au financement pour créer son entreprise. Cette difficulté d'accéder au financement, elle est vraie de manière générale, mais elle est encore plus vraie. Quand vous êtes dans une famille favorisée, vous avez toujours des amis, vous avez toujours des parents qui ont un réseau. N'êtes pas de ce côté-là, et quand, en plus, vous êtes une femme, parce que j'imagine que vous savez que seulement 2% des fonds d'investissement se tournent vers les entreprises créées par des femmes. Donc imaginez, si vous êtes une femme, que vous êtes issue d'un quartier populaire et que vous habitez en zone rurale. Quel espoir est-ce que vous avez de réussir ? Eh bien, je crois que tout cela peut être combattu, et la boucle est bouclée, si on... combat la solitude dans laquelle les personnes les plus vulnérables se trouvent aujourd'hui. Moi, j'ai compris une chose essentielle quand j'étais en politique. La politique, elle est là pour rendre possible ce qui est souhaitable. Je comprends quand vous disiez tout à l'heure, vous êtes en désaccord avec moi parce que c'est pas à moi d'aller dans les écoles pour dire...
J'ai compris. Il n'y a rien d'exceptionnel au fait de dire « j'étais boulanger, je suis devenu... » avocat. Vous voulez que je vous dise, j'ai fait 8 années d'études supérieures. 8 années.
C'est pas donné à tout le monde d'avoir été boulanger et de devenir avocat.
Non, mais pendant 8 ans, je suis arrivé premier.
Non, mais Sylvain, est-ce que vous pouvez reconnaître que... Vous, moi, je vous le dis parce qu'on me l'a dit à moi. À chaque fois, je disais, mais si, c'est possible, regarde. Moi, j'ai bien commencé en tant que femme de ménage et puis je suis devenue ministre. Et on m'a dit, mais il ne faut pas qu'il y ait un arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas qu'il y ait un Sylvain et une Élisabeth qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de problème.
Voilà,
moi, j'ai cru pendant longtemps à la méritocratie. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus parce que parfois, vous pouvez avoir tout le talent du monde. Vous pouvez avoir toute la volonté du monde. Vous pouvez avoir toute l'intelligence du monde.
Absolument.
Eh bien, vous n'y arrivez pas parce que vous avez énormément de facteurs qui vous empêchent d'y arriver.
On a eu de la chance.
Donc, c'est un... Alors, il y a eu de la chance et il y a eu du travail.
Oui.
Il ne faut pas laisser croire que la chance tombe du ciel. La chance, il faut aussi la provoquer.
Élisabeth, vous pouvez être boulanger et rester boulanger. Moi, j'étais boulanger et je suis devenu le compagnon du devoir.
Et vous avez travaillé pour
non,
ça.
Non, mais le compagnon...
Non, mais vous n'êtes pas... Sylvain, vous n'êtes pas devenu compagnon du devoir du jour au lendemain. Je sais trop ce que c'est qu'un compagnon du devoir.
Non,
pour imaginer que vous vous êtes tourné les pouces dans votre boulangerie et que tout d'un coup, on est venu vous chercher pour vous dire « Tiens, Sylvain, et si tu devenais compagnon du devoir ?» Enfin, soyons sérieux. Donc, il faut du travail.
Bien sûr.
Avec le travail, vous faites... des bonnes rencontres, et ça, c'est une partie de chance. Mais cette chance, soit vous la saisissez parce que vous allez vers la personne et vous lui demandez de construire quelque chose, mais il y a des personnes qui ne veulent pas aller vers les autres parce qu'elles ne croient pas dans les autres. Donc, en fait, il y a plusieurs facteurs qu'il faut mettre en œuvre, mais encore faut-il savoir ce qu'il faut faire. Et certaines personnes n'ont eu aucune idée de ce qu'il faut faire pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. Et c'est pour ça qu'on parle de déterminisme, parce que certaines personnes pensent qu'il y a un déterminisme. Et je pense que notre histoire montre qu'il n'y a pas de déterminisme, mais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Et c'est contre ça que nous devons tous nous associer, que ce soit les politiques, que ce soit les entreprises et que ce soit les associations, parce que les mots sont trop importants, les mots MAUX sont trop importants pour qu'on pense qu'il y a un homme providentiel qui va arriver avec sa baguette magique et régler tous les problèmes. C'est un sujet sociétal et j'en termine par là parce que l'exemple que vous avez, enfin l'extrait que vous avez cité tout à l'heure est excellent. En fait, le numérique est en train de nous faire, de nous rendre paresseux. Il nous rend peureux et paresseux.
Je suis d'accord.
Et avec la peur et la paresse, on ne progresse pas.
On va conclure.
On conclut, oui.
On va conclure. Je voudrais juste
un mot
terminer voilà, sur une conclusion. Vous le savez, Jean-Baptiste, j'aime bien conclure aussi par des citations. Et je vais juste rappeler le préambule du livre « Les Misérables » de Victor Hugo, qui parle de la damnation sociale. D'ailleurs, ça a été le premier écrivain du 19e siècle à utiliser le mot « damnation sociale ». Et en somme, il dit finalement « l'ignorance et l'inculture sont les coupables de génération ». Et dans ce que nous disons aujourd'hui, et pourtant nous sommes pratiquement deux siècles après, nous sommes toujours dans l'ignorance et l'inculture dans lequel on confine des populations. C'est pour ça qu'ils ne voient pas d'espoir dans leur vie. Et je pense que c'est ça qui leur sauvera la vie. Parce que moi, ce qui a sauvé la mienne, c'est le goût de la culture. Et vous savez, quand vous n'avez jamais mangé de chocolat, vous ne pouvez pas savoir quel goût il a. Et donc, le jour où vous touchez à la culture, le goût de la culture, vous devenez accro et addict. Ça a été plutôt une bonne chose en ce qui me concerne. Merci.
Monsieur Venin, permettez-moi juste d'ajouter une chose, parce que c'est tellement... Moi, je voudrais quand même finir par une note d'espoir. D'abord parce qu'on vit une période extrêmement complexe et une période d'incertitude et qui peut nous faire perdre confiance en l'avenir. D'abord, je voudrais dire que des moments terribles, l'humanité en a vécu. Et je crois que l'opportunité que nous offre cette période, c'est justement de travailler ensemble différemment. Einstein disait « Il n'y a que les fous qui répètent inlassablement les mêmes actions en espérant des résultats différents. » Nous sommes arrivés à la fin d'un système. Il y en a un autre en devenir et celui-là exige que toutes les intelligences se réunissent, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, et je suis certaine que nous trouverons des solutions à cette période de dingue que nous sommes en train de vivre.
Un grand merci à vous, Elisabeth Moreno, d'être venue sur ce plateau. Moi aussi, je vais terminer par une citation. On sait quand on commence, on ne sait jamais quand on termine. Mais en tout cas, c'était passionnant. Donc, merci en tout cas d'avoir répondu gentiment à notre invitation. C'est la 6e édition de la REF. On continue de vous la faire vivre sur nos antennes. À tout de suite. Merci.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.